Sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, vous écoutez la programmation spéciale estivale de En bas à gauche.
Durant 3 ans d'activités criminelles diverses, cambriolage d'églises, de châteaux, de bijouteries, de villas particulières, Jacob et ses complices n'avaient pas connu de problème majeur. L'infirmier, Royer, qui avait aidé Jacob à s'évader de l'asile du Mont-Périn, s'était fait arrêter à Orléans, mais n'avait rien dit à la police. Jacob ne parvenait pas toujours à faire accepter son idée de la reprise individuelle. Peu à peu, la règle qui consistait à verser systématiquement 10% du butin à la cause fut sujette au bon vouloir de chacun. En mars 1903, Alexandre se fait attraper à Abbeville après une course-poursuite avec la police. Le lendemain, Bourg et Pélissard sont arrêtés à leur tour, et peu à peu, une bonne partie de la bande, dont sa mère et sa compagne, des amis sympathisants, furent arrêtés. Certains d'entre eux avaient trop parlé. L'instruction dura 2 ans. L'acte d'accusation, épais de 161 pages, contenait plus de 20 000 pièces. 106 vols avaient été répertoriés. Le juge avait inculpé 23 suspects. De son côté, Jacob voulait faire du procès un grand moment de propagande anarchiste. Depuis 1904, un hebdomadaire, Germinal, paraissait à Amiens. On peut même se demander s'il n'avait pas été créé pour la circonstance afin de diffuser les déclarations des accusés et de cristalliser l'opinion libertaire autour de cet événement. À l'ouverture du procès, le 8 mars 1905, au palais de justice d'Amiens, toute la presse est là. Les sympathisants, les camarades sont venus pour soutenir, pour appuyer les idées de Jacob. L'ambiance est fiévreuse. Le pouvoir craint une émeute, sinon une évasion. Un bataillon d'infanterie occupe l'intérieur du palais. Des gendarmes à cheval, des chasseurs du 30e régiment escortent les voitures cellulaires. Dans le petit parisien du 8 mars, on lit
« Les bandits d'Abbeville, une affaire monstre, 2 ans d'instruction, 20 000 pièces, 23 accusés, 95 crimes, 1 200 000 francs volés, une merveilleuse organisation. Les débats de ce procès sont attendus avec anxiété, car la population redoute quelques coups de main tendant à délivrer les prisonniers. L'association comptait plus de 40 membres, individus sans métier, tous capables d'un mauvais coup. Jacob paraît avoir procédé de la manière de Cartouche. Celui-ci avait ses indicateurs, ses receleurs, voire ses chirurgiens, et travaillait à la faveur de la nuit. Que de précautions, que de mesures prises. On se croirait revenu à l'époque néfaste où Ravachol et ses complices menaient la terreur. Les accusés d'aujourd'hui ne sont pourtant, comparativement au précédent, que des anarchistes de pacotille, de vulgaires cambrioleurs. »
Le juge athée, qui avait instruit l'affaire, déclare
« Jacob est un voleur professionnel. Il organise des expéditions qu'il conduit avec infiniment de méthode et de prudence. Il juge à propos de tirer vanité de ses vols. Il affecte de les prétendre inspirés par une idée politique. Dans les interrogatoires, il a pris des attitudes d'apôtre. Ce n'est qu'un paresseux malfaisant, voleur incorrigible. Il n'est pas susceptible d'amendement, ni digne de clémence dans l'avenir. »
La première journée est réservée au questionnaire d'identité et à la lecture des actes d'accusation. Un fait notable est que les jurés sont d'abord absents, terrorisés à la peur des représailles des amis de Jacob. Le président doit les envoyer chercher par la force et faire vérifier leur justificatif par un médecin. La farce peut commencer. Le greffier entonne son chant. « Messieurs, la cour !» Le président Veikind, les assesseurs Vassel et Torel, l'avocat général Regnault entrent dans la salle.
« Jacob, Alexandre. »«
Présent. »«
Levez-vous. »«
Non, vous êtes bien assis, vous. »«
Et puis enlevez votre chapeau. »«
Pourquoi ? Vous restez bien couvert. »
Êtes-vous d'accord avec vos co-accusés sur la récusation de quelques jurés ?
Je ne suis d'accord avec personne. Mes amis et moi, nous ne reconnaissons pas à vos jurés le droit de nous juger. Je les récuse tous puisqu'ils sont mes ennemis. Mais je voudrais savoir si les jurés savent lire et écrire.
Je ne sais pas, pourquoi ?
C'est tout ce que je voulais savoir. Je prends bonne note que vous ignorez. S'il n'y a pas d'analphabète parmi ceux qui doivent nous juger et qui auront un autre à examiner les pièces...
Nous pouvons examiner minutieusement le chef de cette redoutable association. Il a une tête étrange, diabolique. au milieu de laquelle percent deux points lumineux, deux yeux d'une vivacité extraordinaire. Jacob est laid, affreux, et cependant l'intelligence donne à son visage une expression curieuse.
Le président procède à l'interrogatoire de Jacob, né à Marseille et à ce jour âgé de 26 ans. Il lui signale ses condamnations antérieures.
Vous êtes originaire de Marseille ?
Oui, et je m'en vante.
Vous avez fait de bonnes études primaires.
Gratuites et obligatoires. On a fait croire au peuple que c'était pour son bien, par souci du progrès social qu'on l'obligeait à s'instruire. Quel mensonge ! C'était pour en faire un singe savant, un esclave plus perfectionné aux mains des patrons.
Je ne vous demande pas votre avis.
Vous racontez ma vie devant tout le monde. J'ai mon mot à dire.
Puis, vous avez été marin. Les certificats de vos officiers sont généralement bons.
J'ai vu le monde, il n'était pas beau. Partout une poignée de malfaiteurs dans votre genre, exploitant des millions de malheureux.
Vous avez été condamné une première fois à 6 mois de prison et 50 francs d'amende pour fabrication d'explosifs le 13 octobre 1897.
Une erreur de jeunesse, croyez-moi. Mes bombes étaient dérisoires pour détruire une association de malfaiteurs dont je ne mesurais pas la puissance.
Vous avez été condamné à 6 ans de réclusion par défaut par la cour d'assises du Var en 1899.
Comment voulez-vous que je le sache puisque je n'y étais pas ?
Vous avez fait opposition à cet arrêt. Puis vous avez été, dans l'intervalle, interné à l'asile d'aliénés d'Aix pour y être mis en observation. L'incohérence de votre langage, vos actes, avaient laissé penser que vous étiez déséquilibré. En réalité, vous n'étiez qu'un simulateur, jouant une comédie pour arriver plus facilement à une évasion.
Chacun se défend comme il peut.
Enfin, vous reconnaissez les faits.
Parfaitement. Je sais ce que je fais. Je ne cherche pas à me disculper.
Quelle est votre profession ?
Entrepreneur de démolition.
Où demeurez-vous ?
Un peu partout dans le monde.
On le fait taire. Et commence alors le long défilé des témoins et des plaignants qui lui servent tour à tour de cible. Une femme.
Je reconnais. Oh, bien qu'il ait quelque peu changé et maigri.
Que voulez-vous, cagole ? On n'engraisse pas en prison.
Chez M. Torquebrio, auquel fut soustrait 40 000 francs de titre, Jacob avait pris un diplôme de docteur en droit.
Que vouliez-vous en faire ?
Je préparais ma défense, je commençais mon droit.
Un certain monsieur le maire vient témoigner du pillage d'une église à Rouen.
Ces bandits ont inscrit dans l'église « Dieu Tout-Puissant recherche ceux qui t'ont volé ton calice » et c'était signé Attila.
Ah non, veuillez m'excuser. Le texte était « Dieu Tout-Puissant recherche les voleurs qui viennent en voler d'autres ».
Vous tenez à ce texte ?
Énormément.
À propos d'un vol à Amiens, où Jacob avait dérobé, entre autres, une flûte traversière.
Jacob, qu'avez-vous fait de cette flûte ? Vous l'avez sans doute fendue.
C'eût été dommage. J'ai plus de connaissances que cela de la valeur des objets. J'en ai fait don à un de mes amis.
Et maintenant il n'est plus là. Maintenant il n'est plus là. Une explosion fantastique n'en a pas laissé une brique. On crut que c'était Fantomas, mais c'était la lutte des classes. La lutte des classes. Un poulet s'éleva vite. Il portait une marmite. Que c'est un renversement. La retourne imprudemment, badaboum. L'inspecteur, le commissaire, mêlé au poulet vulgaire, éclatant fragments épars, buva. Contrairement à ce qu'on croyait, y'en avait qui en avait. L'étonnement est profond, on les retrouve jusqu'au plafond. Retrouve jusqu'au plafond.
des bons enfants. Viande à vendre aux plus offrants. L'avenir à Dieu prend place. Et le vieux monde est à la casse. Le vieux monde est à la casse. Voilà bien ce qu'il fallait, ouais, pour faire la guerre au palais. Sache que ta meilleure amie, prolétaire c'est la chimie. Prolétaire c'est la chimie. Les socialos n'ont rien fait, non. Pour abréger les morvées d'un famille capitaliste heureusement malade. Marche juste au balabomain. Il n'a pas de préjugés. Les curés seront mangés. Le travail, le pouvoir, il le nie. Encore quelques beaux efforts. Et disons qu'on se fait fort de régler radicalement le problème social en suspens. Social en suspens. Social en suspens.
Jacob s'était introduit chez un juge, au Mans, M. Hulot.
Après m'avoir cambriolé, ils ont laissé des excréments sur mes meubles et un billet ainsi conçu. À toi, juge de paix, nous déclarons la guerre. Attila. Peu après le vol, ma femme est morte d'une congestion cérébrale. C'est évidemment le chagrin que lui causa ce larcin qui fut la cause de sa mort. Ils m'ont volé mes richesses et tué ma pauvre femme.
Peu cher. On s'apitoie sur le sort de ce juge de paix capitaliste et on reste indifférent au sort des innocents qui se trouvent sur ces bancs.
Le colonel Louis de Rennes s'était fait dérober un revolver.
Monsieur le Président, voudrait-il demander aux témoins si ce revolver était fait pour tuer ou pour guérir? De tous les fléaux qui accablent les hommes, la guerre est le plus funeste. Au lieu de la combattre, des hommes, pour satisfaire leur ambition, ont remplacé le dogme de Dieu par celui de la patrie. On ne guerroie plus contre des infidèles, on civilise des insurgés. Je considère les militaires comme de vrais assassins.
À propos d'un vol à Liège.
Vous connaissez donc quelqu'un à Liège qui vous a indiqué cette maison?
Non, je n'ai besoin de personne pour me guider. Partout, je vois des maisons particulières. Des villas, je me dis, voilà mes clients. Si je vois des cheminées d'usine, je me dis, il y a là du populo qui travaille. Rien à faire. Malgré les progrès réalisés, l'homme est toujours un loup pour l'homme. Il s'arroge le droit de juger les hommes. Mais il ne met sa justice qu'au service des riches contre les pauvres. Il y a un siècle, les pénalités étaient atroces. Cependant, il n'y avait pas moins de crimes que maintenant. Au contraire. Donc ce n'est pas en punissant qu'on empêche la perpétuation des crimes. Le magistrat ne punit que pour défendre ses sinécures. Les magistrats ne peuvent subsister que dans une société corrompue. Je regrette de n'en avoir dévalisé davantage.
À propos d'un vol pour lequel plusieurs inculpés sont en cause, parmi eux Clarençon. Celui-ci rappelle à la cour qu'il fut autrefois interné comme aliéné.
Vous ne sauriez me reprocher mes antécédents. J'ai été atteint, dans ma jeunesse, d'une terrible maladie mentale.
Oui, c'est un système de votre part, comme pour Jacob.
Moi, oui, j'ai fait le fou par ruse, car je suis un rusé. Tandis que lui, il est fada.
Je l'ai été. Je pense être guéri.
Oui, vous êtes fou par intermittence.
J'en connais, moi, des semblables et qui sont fonctionnaires haut placés.
Nous allons nous occuper aujourd'hui de certains vols, commis notamment par Ferrand et par Brunus, comme receleurs.
Dès le début de l'audience, le président veut faire taire Jacob, qui n'est pas directement interrogé, mais qui veut intervenir.
Nous ne sommes pas ici dans une réunion publique.
Mais j'entends me défendre.
On vous a laissé vous défendre hier. Vous n'êtes pas en cause aujourd'hui. Asseyez-vous.
Je vais rester debout.
Et Jacob fait comme il le dit. Le président procède à une longue accusation contre les complices de Jacob, qui refusent de répondre aux questions. Le président s'adresse à Pélissard.
Avez-vous quelque chose à déclarer pour votre défense ?
Oui. Messieurs les jurés, le salaire est une survivance du servage. Que penser des pères de famille dont le gain quotidien est moins coûteux à des entrepreneurs que l'entretien d'une bête de trait ? Le vol est une reprise légitime de possession au mépris des anathèmes intéressés du bourgeois. L'armée, c'est l'école du crime et du banditisme, où l'on enseigne constamment le pillage et l'art sauvage d'exterminer son semblable. Et j'ai lieu d'être fort surpris de me voir traîner devant vous pour des faits qui ne sont en réalité que des jeux d'enfants auprès de ce qui me fut enseigné au régiment. La bourgeoisie est une association de malfaiteurs. Les prêtres sont des filous à l'américaine, promettant contre finance un paradis de fiction. La presse bourgeoise est une meute, aboyant au service de la police, qui lui tolère ses rapines et ses chantages. La police, c'est, selon Paul-Louis Courier, le plus puissant moyen inventé pour rendre un peuple vil et lâche. La justice bourgeoise est une balance qui penche plus ou moins pour un même fait, selon que l'inculpé est déshérité ou fortuné. Le budget, c'est une énorme somme d'impôts prélevés sur la misère du peuple pour payer toutes ces monstruosités. Le mariage est le tombeau de l'amour. La chair veut être libre et capricieuse. L'anarchie est l'idéal sublime de ceux qui gémissent et la poésie des esprits féconds.
À propos d'une affaire à Chartres, à laquelle Ferrand participait, un témoin dénonce.
Ferrand, il n'était pas seul. Un complice l'accompagnait.
Et vous, Ferrand, vous ne voulez pas le désigner?
Ah non.
Vous êtes lié par le secret professionnel.
Parfaitement, monsieur le président.
La troisième journée d'audience se termine sur le rôle déterminant des délateurs Calvert et Gabriel Damien. Le nom de Calvert soulève une véritable tempête parmi les accusés. La plupart se lèvent et parlent en même temps. Jacob s'agite et tape du poing.
Foutre Dieu! Vous aviez avec Calvert un témoin gênant auquel nous pourrions démontrer ses mensonges et vous ne le faites pas voir? La sûreté le cache? Et puis vous avez permis à Ferrand, à Gabriel Damien, de rester ensemble plus de 3 heures, paraît-il. Cela parce qu'on voulait obtenir des aveux. À moi, on ne m'a jamais donné la permission d'embrasser ma mère.
L'audience est levée, l'audience est levée. Et évacuez la salle. Sortez, sortez tous. Messieurs les gendarmes, faites évacuer la salle, je vous prie. L'audience est levée, l'audience est levée.
L'audience reprend avec l'interminable liste de plaignants. Jacob peut, lui, reprendre son procès de la société. Alors qu'il est accusé d'un vol d'action industrielle, il répond.
Eh bien, monsieur, vous êtes fait voler. Les titres n'avaient aucune valeur. Je les ai brûlés. Ce sont des escrocs qui vous les ont vendus. Mais ils sont décorés de la rosette et ce sont des honnêtes gens. Ils ne sont pas cambrioleurs, eux.
Un curé est venu parler d'un vol dans l'église de Brumetz, dans laquelle Bourg avait été enfant de cœur.
J'ai connu Bourg tout jeune. Il était un bon petit. Je suis étonné de le voir dans cette bande.
C'est avec un profond sentiment d'écœurement que je viens de vous entendre.
Il faut bien que je dise ce qui nous a été volé.
Ça vous va bien de parler ainsi, vous qui prêchez la charité.
Que vous ont-ils volé?
Les ciboires et ils ont ouvert le coffre. Ils ont pris le modeste denier du culte, les offrandes de nos fidèles.
Voyons, curé, rappelez-vous, vous ne dites pas tout. Vous venez nous accuser au nom de votre Dieu et de votre morale. Mais le placard qui contenait des gravures du genre, disons, Fragonard, est-ce que j'en parle, moi? Si je devais retracer tous les crimes commis par les prêtres au nom de Dieu... L'Inquisition, les guerres de religion, les assassinats des amis de la vérité, plusieurs audiences n'y suffiraient pas. La religion est morte, la science l'a tuée. Je ne piétinerai pas son cadavre. À mon avis, l'Église est une immense boutique où des aigres faits en soutane se livrent à des momeries devant une foule de dupes, à qui ils estorquent de beaux écus contre un paradis illusoire. La prétaille ne prêche le renoncement que pour mieux s'approprier les richesses. Elle ne promet les délices d'un monde futur que pour mieux dominer celui-ci. Pour ma part, je puis parler avec compétence de leur prétendu mépris pour les trésors de ce bas monde. J'ai visité, fouillé et épuré bon nombre de leurs repères. Dans presque tous, j'y ai trouvé un coffre-fort, quelquefois plusieurs, ainsi que de fortes sommes que les fidèles adressent à un dieu et que les porteurs de frocs gardent pour eux. Or, quelle est l'origine de ces richesses, sinon la fourberie et l'imposture? Voilà les charlatans qui osent m'appeler voleur. Voilà les escrocs qui appellent contre moi les foudres de la loi. On avouera qu'ils ont un fier toupet.
Une dame de la haute vient se plaindre d'un larcin dont elle fut la victime.
Un mouchoir de dentelle, hérité de mon arrière-grand-mère, d'au moins 250 francs à lui seul.
Alors là, cocotte, je ne vous le fais pas dire. N'est-ce pas, soit seule, une insulte aux classes laborieuses? Oui, j'ai pris des mouchoirs. C'était pour pleurer sur le sort de cette malheureuse, qui possède 4 châteaux et qui ne sont pas en Espagne. On a l'air de les plaindre parce qu'on leur a volé quelques malheureux mouchoirs, et on ne s'occupe pas de ceux qui n'ont pas de logis pour s'abriter.
Jacob, ça suffit avec vos discours.
Je veux me défendre. Je ne veux pas que vous m'envoyiez au bagne ou à l'échafaud comme un commissaire-priseur se débarrasse d'un tableau. Nous ne sommes pas des objets, mais des hommes.
Les attaques se succèdent. Tout est passé au crible. Les curés, les militaires, les bourgeois ont eu leur part. Il manquait à Jacob les nobles. Il leur avait réservé un morceau de choix.
Parmi le nombre de fortunes bourgeoises, quelques-unes peuvent se considérer comme étant le produit d'une entreprise commerciale ou industrielle. Par exemple, le négociant en alcool s'enrichit en empoisonnant des générations. Le fabricant d'armes emplit d'or ses coffres forts en construisant des engins de destruction. Leur fortune est en quelque sorte le résultat d'un genre de travail. Mais à l'égard des propriétés nobiliaires, cette subtilité de possession ne peut même pas se soutenir. Pour un noble, travail est synonyme d'avilissement. Il suffit de compulser l'histoire pour constater qu'ils ne doivent leur fortune qu'au crime, au brigandage et à la prostitution.
Ça suffit, mesurez vos paroles. C'est vous, Jacob, qui êtes au banc des accusés.
Un autre avocat, du barreau d'Amiens, celui-là, Maître Fabiani, indique qu'il voudrait intervenir.
Maître Fabiani, vous êtes un homme aimable. Je vous donnerai la parole chaque fois que vous me la demanderez.
Mais nous sommes tous aimables à Paris. Et nous n'avons peut-être pas ici les égards qui nous sont dus.
J'ai pour les gens les égards qu'ils méritent.
Je prends acte des paroles de Monsieur le Président. Je proteste au nom du barreau de Paris et je quitte immédiatement mon banc.
Escrocs ! Sortez, sortez tous ! Messieurs les gendarmes, faites évacuer la salle, je vous prie. L'audience est levée, l'audience est levée. Faites évacuer la salle, je vous prie. Sortez, sortez tous ! Allons, allons, sortez! L'audience est levée! L'audience est levée!
Les bons dieux dans la mer, nom de Dieu! Les bons dieux dans la mer!
Les audiences se dérouleront désormais sans les accusés contre qui est prononcée une expulsion définitive. Les deux audiences suivantes ont lieu dans le calme, le président ayant déclaré aux avocats
« Messieurs les avocats, les accusés ayant été définitivement expulsés, vous ne m'empêcherez pas d'aller au terme de ce procès. Et ce n'est pas par voie de requête, mais par voie de pourvoi que vous pourrez faire annuler l'arrêt de la cour. »
Le mercredi 22 mars, eurent lieu les dernières plaidoiries. Maître Justal, l'avocat de Jacob, tenta une dernière chance.
« Monsieur le président, messieurs les jurés, j'ai à faire tomber la légende et à lutter contre l'attitude inconvenante de mon client à l'audience. Jacob n'est pas tel qu'il y est apparu. C'est un cœur violent et tendre, une nature compatissante et farouche à la fois. Fils et petit-fils d'alcooliques, Son esprit n'a-t-il pas pu être troublé par les débats aigus qui s'agitent actuellement sur la légitimité de la propriété? Jacob, aigri par la vie, a fait du vol une fonction et il l'a remplie avec passion. Voyez-vous, il m'est apparu comme l'incarnation du génie du bien, car loin de poursuivre comme but une existence opulente, il poursuit la pratique d'une doctrine qui fait que, pour lui, voler signifie reprendre aux riches pour donner aux pauvres. Oui, j'ai bien le droit de saisir cela, parce que Jacob vivait de peu, se considérant surtout comme un redresseur de tort. On voit, en effet, à toutes les époques de l'histoire, de ces types hallucinés traverser la société à la poursuite d'un lent idéal, bien avant que l'anarchie ait créé sa doctrine et donné sa formule. Il y a au fond de ces êtres quelque chose que nous ne comprenons pas, une foi que nous ne pouvons pas saisir.
Après la lecture de 700 questions, le jury se retira pendant plus de 6 heures pour délibérer et rendit son verdict. Les condamnations furent les suivantes. Jacob et Bourg, travaux forcés à perpétuité. Ferrand, 20 ans de travaux forcés. Pélissard et Bonnefoy, 8 ans de travaux forcés. Clarençon, 5 ans de travaux forcés. Ferret et Baudy, 10 ans de réclusion. Sautarel, Charles, Brunus, Blondel, Rose, Marie, 5 ans de réclusion. Adair, Appart, Auguin, Westermann, Chalut, Limonier et Tissandier furent acquittés.
C'est ce qui met fin à cette émission d'En bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Retrouvez-nous la semaine prochaine, mardi à 9h pour notre programmation estivale spéciale. Et d'ici là, retrouvez l'ensemble de notre programmation. Vous pouvez réécouter l'émission, vous pouvez également nous laisser des commentaires. Tout ça sur notre site web que vous devez vraiment aller visiter à en bas à gauche, wordpress.com. On vous retrouve la semaine prochaine, mardi 9h, sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Bonne semaine!